Bienvenue sur Parole d'Auteuil, le premier podcast consacré au village du 16e arrondissement. Arrivée ici à l'âge de 20 ans, j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce quartier. À tel point que 10 ans après, je n'ai toujours pas envie de le quitter. Pourtant, les clichés sur le 16e, on les connaît tous. Un arrondissement sans âme, où les habitants sont des bourgeois repliés sur eux-mêmes. Des idées préconçues bien loin de ce que je peux voir, entendre, ressentir au quotidien. C'est donc à travers ce podcast que j'ai eu envie de déjouer les clichés. De partir à la rencontre de ceux et celles qui font vivre le village d'Auteuil. Et de partager leur histoire avec vous. L'école Tineur, c'est un bistrot simple, authentique. Chaleureux. Un bistrot à l'image de Gabin, son propriétaire. Après avoir managé deux établissements dans le 11e, Gabin réalise son rêve de toujours en novembre 2019, ouvrir son propre restaurant. Avec son associé, il fait le pari de s'installer à la place du bistrot chez Antoine, situé à l'angle de la rue Willem et de l'avenue de Versailles depuis plus de 30 ans. Même s'il est un peu à l'écart de la place d'Auteuil, le restaurant de Gabin fait malgré tout sensation, grâce à une cuisine traditionnelle, des produits du terroir bien travaillés et du 100% fait maison. Ensemble, nous avons discuté de sa vocation pour la cuisine, de son parcours jusqu'à l'ouverture des Coltineurs, mais surtout, de son arrivée dans le quartier d'Auteuil, qui a été une vraie révélation. Je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Bonjour Gabin, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode, merci d'être là.
Bonjour.
Alors toi Gabin, avant de démarrer l'aventure des Coltineurs, tu travaillais exclusivement dans le 11e arrondissement et tu y habites toujours d'ailleurs. Est-ce que tu connaissais le village d'Auteuil ?
Absolument pas, pas du tout. J'avais aucune raison de venir ici, à part en venant de temps en temps à Jambouin. Pour moi, j'avais déjà même la sensation à partir de la maison de la radio que Paris était fini.
Donc no man's land.
Exactement.
Ok. Et donc quelle image alors tu avais du 16e puisque tu le connaissais pas du tout ? Est-ce que tu avais des a priori ?
Absolument, plein d'a priori, un quartier absolument pas dynamique, assez âgé, et il était hors de question de venir ici.
C'était vraiment catégorique en fait, tu ne voyais pas du tout vivre ou travailler ici.
Pas du tout, pour moi il y avait que l'Est de Paris, le centre et pourquoi pas un petit peu le 17e et pas du tout le 16e.
Oui, de ce que tu me dis, on comprend que rien ne te destinait à venir travailler ici, et pourtant tu as fait le pari d'y ouvrir un restaurant, c'est ça qui est vraiment étonnant. On va revenir sur ton parcours. Tu me disais que tu as baigné dans l'univers de la cuisine. Qui t'a donné le goût de la cuisine ?
Ma famille, ma grand-mère avait un café un petit peu type routier, ouvrier. Ensuite, mon oncle était cuisinier de métier. C'est lui qui m'a émergé auprès de la cuisine, qui m'a obtenu mes premiers stages, qui m'a vraiment permis de découvrir le métier.
Pour toi, c'était une évidence.
C'est un petit peu loin, puisque c'était déjà dès la 5e, 4e. La 5e, c'était mon stage découverte. Mais à vrai dire, j'avais cette chose-là en tête et je n'avais rien d'autre.
Tu me disais que tu t'étais aussi rendu compte de ta passion pour la cuisine quand tu as pris ton indépendance.
Exactement. Après déjà 4 ans de lycée hôtelier, quand je suis parti en alternance, donc j'étais entre Le Mans et Tours. Donc au Mans, je cuisinais au restaurant, mais à Tours, j'étais à l'école. Donc j'avais une chambre chez l'habitant avec une cuisine, une belle cuisine à disposition. Et c'est à ce moment-là où j'arrivais à me faire plaisir assez facilement.
Qu'est-ce que tu te faisais ? Est-ce que tu veux nous mettre l'eau à la bouche là ?
Ah, je faisais plein de trucs. J'étais capable de me faire une sauce béarnaise juste pour moi, avec une bonne entrecôte, des bons gratins dauphinois, des desserts. Il y avait plein de choses, quoi. Des poissons rôtis, des soles meunières. J'étais capable de faire plein de choses.
C'est vrai que c'est assez différent du cliché un peu qu'on a du jeune qui se fait des plats tout faits. Quand même, on est assez éloigné de ça.
Et ce qui est assez drôle, c'est que la personne chez qui je vivais était une personne seule, séparée. Et du coup, on s'est rapprochés comme ça. Il mangeait à 19h, moi je mangeais à 21h. Après manger, il traînait un petit peu dans la cuisine, il venait discuter avec moi, il voyait tout ce que je me faisais. Et on s'est rapprochés comme ça et il s'est mis à manger à 20h30 pour pouvoir manger avec moi.
C'est drôle. Je trouve que c'est assez incroyable la manière dont la cuisine peut créer des liens forts. C'est aussi ce qu'on verra dans ton parcours d'ailleurs.
Exactement. C'est du partage, c'est des émotions, c'est... On fait plaisir aux gens, donc automatiquement, oui, on crée des liens.
Donc tu savais que tu voulais faire de la cuisine, mais à quel moment tu t'es dit « je veux ouvrir mon restaurant » ?
Je sais que je vais ouvrir mon restaurant à mes 18 ans. Je fais une saison au Pouliguen, en cuisine, au restaurant La Voile d'Or, qui était géré par deux personnes, Quentin et Jérôme, deux associés. Et il y en avait un des deux qui s'appelait Jérôme Dromaire. Je me suis dit, plus tard, je vais être comme lui. Voilà. Il était présent aussi bien en cuisine qu'en salle. Il avait les petites attentions. Il savait être strict quand il le fallait. Mais à l'aise. Il faisait le tour des tables. Il allait voir les clients. Il avait plein de potes qui venaient le voir, qui venaient manger chez lui. Et il y avait ce côté très aubergiste qui m'a séduit. Et à ce moment-là, je me suis dit, plus tard, je vais être comme lui.
C'est-à-dire chaleureux, c'est ça?
Exactement. Enfin, il y a vraiment un côté d'accueil, de partage, de vouloir faire goûter les choses, de partage. On veut montrer aux clients, voilà, ici vous êtes bien, vous êtes entre de bonnes mains et on va vous faire passer un bon moment. Et lui, c'était ça ce qu'il faisait.
Ça, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué.
Ça m'a beaucoup marqué. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est clair. Je vais faire ce que lui plus tard.
Et je voulais aussi qu'on parle d'une autre rencontre qui avait été importante pour toi. Si je ne me trompe pas, c'était en 2015. On le verra tout à l'heure, c'est aussi ce qui a permis de réaliser ton rêve d'ouvrir un restaurant. À ce moment-là, tu venais d'arriver à Paris, c'est ça?
Exactement. Il était prévu que je rentre de l'étranger après 2 ans de voyage. Et donc j'avais un ami qui travaillait pour des associés, qui avait des projets d'ouverture de restaurants et autres, et qui aimait bien s'entourer de jeunes et de les faire rentrer au fur et à mesure, petit à petit, dans les affaires, pour les responsabiliser et puis pour les lancer dans le grand bain, quoi. Je me suis dit, bon, ça peut être la carte à jouer en rentrant à Paris. Et ils avaient un projet d'ouverture de restaurants qu'elle révolutionne. Et c'est les raisons qui m'ont poussé à venir rencontrer Rhett.
Et c'est donc à ce moment-là que tu as commencé à travailler au Revolution, le restaurant de Rhett, et vous vous êtes peu à peu liés d'amitié. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous êtes rapprochés?
Bah, c'était à force de faire des réunions de quart, de partager des recettes, d'aller voir des producteurs, de m'emmener voir des vignerons, de faire des salons et tout plein de choses. On s'est vite rendu compte qu'on allait dans la même direction, partager les mêmes convictions. Et donc automatiquement, bah, des liens secrets.
Qu'est-ce qui fait finalement qu'entre deux personnes qui travaillent dans la restauration, ça fonctionne? C'est quoi les signes qui montrent que c'est positif?
C'est comme un couple. Si vous passez votre temps à vous chamailler, si constamment vous ne pensez pas la même chose, voilà, c'est ces signes. Nous, à 85%, 90% du temps, on pense à la même chose. On s'en rend vite compte, hein. C'est soit on est constamment en opposition, ou soit c'est fluide et ça roule tout seul, on prend du plaisir à le faire.
Et cette rencontre était vraiment importante puisque Rhett t'a fait confiance quand tu as voulu passer de la cuisine à la salle, c'est ça?
Exactement. J'ai passé beaucoup de temps en salle. J'ai rencontré beaucoup de gens du quartier, je me suis fait beaucoup d'amis. Enfin, c'était assez chouette. Mais c'était la première fois pour moi, puisqu'à chaque fois, les cuisines étaient en sous-sol, fermées et autres. Et je me suis rendu compte que je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Et à ce moment-là, donc quasiment 2 ans après l'ouverture, j'ai été chuchoté à l'oreille que je voulais passer un petit peu en salle, avoir plus de contact avec la clientèle, fidéliser un petit peu plus et être un petit peu plus présent en salle, ouais.
Pour qu'on comprenne bien, la cuisine et la salle, ce sont vraiment deux mondes différents.
Absolument. C'est deux mondes différents. Il y a un monde où on ne vous voit pas. On a souvent les serveurs qui viennent vous voir en vous disant bah c'est top, le client a bien mangé. Mais quand on est en salle, c'est pas pareil. Il y a plus d'échanges. Le client détaille un petit peu plus ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu en fait de passer en salle, c'est le fait d'avoir une expérience en cuisine et de connaître exactement tous les process, les procédures, la façon de cuisiner. Bah, je prenais beaucoup de plaisir à l'expliquer aux clients. C'était un cuisinier qui passait en salle. Et je me rendais compte que ça leur plaisait énormément aux clients. Donc il y avait cette alchimie parfaite.
Parce que normalement, ça ne se fait pas. C'est pas quelque chose de commun de passer de la cuisine à la salle.
Ouais, c'est effectivement, c'est peut-être. C'est pas commun. C'est pas commun. En général, on reste en cuisine, puisque je pense qu'en cuisine, quand on choisit cette voie, c'est peut-être qu'on n'est pas forcément très à l'aise, ou on n'a peut-être pas forcément envie de se. La salle, c'est particulier quand même. On se retrouve devant tout le monde, un peu comme un comédien.
Et puis c'était peut-être pas dans ta personnalité d'être sur le devant de la scène, si on reprend un petit peu ton image du comédien.
Disons que c'est une personnalité que je ne connaissais pas et que j'ai découverte au Revolution. Avec la partie ouverte où il y avait un comptoir et je discutais. Et de temps en temps, quand la salle était surchargée en travail, bah, je faisais le tour, je prenais des assiettes, je les amenais en salle. Je pouvais faire des prises de commandes. Je ne m'attendais pas à faire ça.
Qu'est-ce qui a changé en fait? Tu étais moins timide par rapport à comment tu étais
J'étais
avant?
plus à l'aise. Voilà, j'ai réussi à acquérir de l'aisance. Il m'arrive encore parfois de manquer d'aisance en salle, mais quand tout va bien, je suis à l'aise. Et dès que ça va pas, là, je manque peut-être un peu d'aisance, mais ça, je vais l'acquérir avec le temps. C'est pour ça, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, avec un client mécontent, autre chose, on s'efforce, on s'en affronte les problèmes, on va voir ce qui va pas. Et ça vient progressivement.
C'est aussi ça l'idée que j'avais envie qu'on aborde. Tu n'avais jamais fait de salle avant, donc quelque part, Rhett t'a fait confiance à ce moment-là.
Exactement. Et ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, ses associés ne voulaient pas du tout miser là-dessus. Pour ses associés, il était hors de question. Un cuisinier peut pas passer en salle. Donc, grâce à Rhett, je suis passé en salle. Ça a été le début et il a fallu que je fasse mes preuves. Et au final, ça s'est très très bien passé.
Et oui, puisque c'est un peu plus tard que tu t'es décidé à ouvrir ton restaurant avec Red comme associé. Comment ça s'est passé? Comment vous en êtes venu à l'idée d'ouvrir un restaurant ensemble?
Rhett savait que ça faisait partie de mes projets. Je montrais beaucoup d'intérêt là-dessus. Je regardais les restaurants à vendre, les locaux disponibles. Je lui envoyais des annonces parfois, comme ça, juste pour essayer de le titiller un peu. C'est en allant au salon de la franchise, chose que je n'avais pas du tout envie de faire, hein, prendre une franchise. J'allais juste m'inspirer, voir un petit peu les idées, découvrir ce qu'il y avait et autres. Et c'est en venant, on s'est retrouvé dans le quartier du restaurant pour boire un verre. Et c'est à ce moment-là donc qu'il m'a dit, bah, écoute, faudrait qu'on trouve quelque chose à faire ensemble. C'était le bon moment pour m'en parler.
Et à ce moment-là, alors, tu t'es dit quoi?
Ça y est. Enfin, c'est ce que j'attendais en fait. Je me voyais pas du tout aller lui dire, tiens, tu veux pas qu'on s'associe, tu veux pas, arrête, sa carrière est déjà tracée, il a quelques restaurants. Bon, il a pas forcément besoin de moi, ça fonctionne.
Tu sentais pas assez en confiance pour l'aller lui.
Non, mais c'était. Ouais, je me sentais pas. C'était pas dans ce sens qu'il fallait le faire. C'est pas, tiens, est-ce que tu veux qu'on s'associe? Il y avait que lui qui pouvait me proposer ça. D'autant que. Pour ouvrir un restaurant, il faut de l'argent, chose que je n'avais pas beaucoup. Donc, les coltineurs aujourd'hui, c'est essentiellement grâce à lui, il m'a énormément aidé.
On disait au début de notre échange que tu ne t'imaginais pas du tout ouvrir un restaurant dans le quartier d'Auteuil, et pourtant c'est ce qui s'est passé.
Absolument. On faisait plein de visites, plein, plein, plein. Et à chaque fois, vous savez, c'est comme quand vous visitez un appartement ou autre chose, c'est tout rose, c'est tout beau, c'est magnifique. Et puis lui arrivait, tac, il relevait tout de suite les défauts. Il y a ça, tac, 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 tac. Donc il brisait mes rêves. Il brisait mon rêve en l'espace de 5 minutes. Mais je perdais pas espoir, je continuais d'inonder d'annonces et autres. Et un jour, on est au Révolution. On a rendez-vous avec un brasseur pour discuter un petit peu des boissons et autres du Révolution. Et là, je lui dis, bah, tiens, avec Gabin, on cherche un restaurant, est-ce que tu as quelque chose dans le quartier? Il me dit, bah, écoutez, dans le quartier, j'ai rien. Mais par contre, j'ai une super opportunité dans le 16e. Bon, 16e, je me dis, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se moque de moi? Donc, belle opportunité, beau restaurant. Il nous montre des photos, effectivement, c'est un beau restaurant. On prend contact et là, il me dit, bah, écoute, appelle le monsieur et on va visiter, va voir ce que t'en penses.
Donc toi, tu as décidé d'aller visiter ce restaurant, alors que si j'ai bien compris, c'était pas du tout ce que tu cherchais.
Exactement. Il était 15h, j'appelle le monsieur, on se donne rendez-vous à 17h. Antoine, 74 ans, il se réveille de sa sieste, on fait le tour, tout ça, ça se détend à la fin un petit peu plus, et je lui dis, bah, écoutez, effectivement, c'est pas mal, peut-être que je repasserai ce soir avec mon patron. Donc je sors, j'appelle Rhett, et je lui explique, bah écoute, c'est une belle affaire. Il me dit, bouge pas, j'arrive. On attend l'ouverture, on fait un petit tour dans le quartier, on regarde tout ce qu'il y a. Bon, moi, le quartier, c'était pas ça. Mais Rhett, lui, était vraiment, vraiment, vraiment confiant là-dessus.
Toi, t'étais vraiment sceptique au début, en fait.
Mais vraiment, j'étais sceptique de chez sceptique. Je voulais pas du tout venir ici. C'est loin. Je voyais pas beaucoup de jeunes. Je voyais les commerces assez loin quand même. Pas de cinéma, pas de théâtre. C'est un peu étrange. Mais pour que Rhett me pousse à aller le visiter, je lui fais toujours énormément confiance. Donc je me dis, bon, allez, on va sonder un peu le truc. Il a discuté avec Antoine. Et il se retourne vers moi, il me dit, bon, ça te plaît? Je lui dis, bah, ouais, ça me plaît. Donc il a regardé Antoine, il a dit, bah, écoutez, on vous le prend, monsieur, on vous achète le restaurant. Voilà comment ça s'est fait.
Et finalement, tes a priori sont peu à peu tombés. Si je me trompe pas, c'est quand tu as commencé à visiter le quartier.
Bah, exactement, bah, on a mis beaucoup de temps pour réunir le papier, enfin Antoine a mis beaucoup de temps pour réunir les papiers pour la vente. Donc je venais beaucoup, beaucoup le voir, aller voir si tout allait bien, on passait beaucoup de temps ensemble. Mais ouais, je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le quartier. Et là, c'était plus un no man's land. Ça devenait un quartier qui était assez familier, où je voyais beaucoup plus de vie, beaucoup plus de dynamisme. Il y avait beaucoup de commerces de bouche et de bons commerces de bouche. Donc ça, c'était un bon signe. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être des gens assez réceptifs à la bonne nourriture, des bons vivants. Et ça, c'était un bon point.
Et la surprise, c'est que finalement, il y avait plus de jeunes que ce que tu pensais.
Exactement, il y avait beaucoup plus de jeunes que je le pensais. On venait sur les coups de 18h, 18h30, et hop, on regardait un peu ce qui se passait, on regardait les flux. Et effectivement, des jeunes, des moins jeunes, un peu de tout, mais pas forcément des. Bon, ils n'étaient pas tous en fauteuil roulant, quoi.
Et ça s'est confirmé, cette impression, quand tu as ouvert le restaurant, où là, tu as vu une clientèle jeune finalement.
Alors, avant l'ouverture même, tout le monde, on avait à peu près 10 personnes par jour qui passaient sur les travaux et qui nous posaient des questions. Et donc là, on a pu voir le panachage d'âge.
C'est ça aussi qui est intéressant, les gens ils sont sensibles à ce qui peut se passer dans le quartier, En fait, ils sont curieux.
C'est exactement ça, ils sont curieux. Quand vous avez 10 personnes différentes qui passent tous les jours, on se dit, bon, attention, là, il va pas falloir blaguer, on va être attendu, le restaurant risque de se remplir la première journée, donc ouais, il faut faire attention à tout ça, faut pas se louper, hein. Quand il y avait des personnes qui discutaient devant le restaurant avec nous, il y avait un voisin qui passait, Antoine, qui lui, pendant les 3 premiers mois d'activité, vivait toujours au-dessus, sur le croisement rue Willem et avenue de Versailles, c'était lui le maire, hein. Donc il nous présentait tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et là, on s'est rendu compte que, bon, il y a une vie de quartier ici.
C'est ça en fait, les gens se connaissent. C'est intéressant ce que tu dis, tu l'as senti tout de suite cette vie de quartier.
Exactement. Et donc une ouverture, c'est rare qu'une ouverture soit parfaite. Il y a toujours des choses à peaufiner. On ne prend pas forcément les bonnes décisions au début. Donc là, il fallait s'efforcer quand même d'être au maximum parfait. Puisque les gens allaient en parler, les gens allaient communiquer là-dessus et autres. Et ça, c'était le point au début qu'on avait sous-estimé. On s'est dit, bon, ça va se remplir tout doucement. Vraiment tout doucement. Mais au final, tout le monde est venu tester.
Toute cette période a duré à peu près 1 an, et puis il y a eu l'ouverture. Toi, tu devais être très ému à ce moment-là.
Ah bah oui, il y avait beaucoup d'émotions. J'ouvre enfin mon restaurant. Bon alors enfin, j'ai pas non plus attendu beaucoup, mais c'est marrant, c'est un objectif que je m'étais fixé, ouvrir mon restaurant pour mes 30 ans. Donc c'est chouette. Et donc ouais, il y a toute cette émotion. Enfin après, il y a toute cette émotion, mais qui ne reste pas forcément trop présente, qui disparaît, puisqu'il y a tout ce stress aussi qui est là, les clients qui passent, qui rentrent. Donc ça met un peu la pression.
Tu me disais qu'il y avait aussi du stress parce qu'une grande tablée avait été réservée ce soir-là, c'est ça?
On avait 2 grandes tablées. On avait déjà une réservation qui était prévue depuis 15 jours, qui était un ami du chef qui venait faire son anniversaire. Donc là, c'était la deadline, il fallait ouvrir pour ce fameux vendredi. Et via Instagram, une cliente du quartier qui voulait absolument réserver pour 10 personnes. Je botte en touche, c'est pas conseillé, ça va pas être parfait et tout, donc voilà. Et elle m'a dit non, non, je veux venir ce vendredi dans votre restaurant, je veux venir. Bon, très bien, je prends la réservation au nom d'Erika. Et au final, c'était tous mes amis de Bastille qui étaient venus pour faire une surprise. La fameuse Erika. Voilà.
Donc finalement, c'était tes amis qui étaient venus là pour te soutenir, ça devait être une belle surprise.
Ah bah c'était une super surprise. Ça, c'était un bon moment d'émotion, hein, effectivement. Bon moment d'émotion, tout ce soutien de la part de mes amis, c'est chouette.
Et donc maintenant que le restaurant avait ouvert, qu'est-ce qui te tenait à cœur? Qu'est-ce qui était important pour toi?
Ce qui était important, c'était de se faire plaisir, avant tout. Comme je vous l'ai dit, c'est un métier de passion. Il faut utiliser des choses, des bons produits, avec du bon matériel, bien sublimer les plats. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de faire une cuisine, on va dire, noble, avec des produits nobles, une belle cuisine traditionnelle française qui met en avant le patrimoine culinaire.
Par exemple, quel genre de plat?
Bah, par exemple, du riz de veau sauce morille, des abats, de la tête de veau sauce gribiche, toutes ces choses un petit peu oubliées qu'on adore, avec lesquelles certains de nous ont pu grandir et qu'il ne faut surtout pas délaisser parce que, encore une fois, elles font partie de notre patrimoine. Et donc, c'était ça, c'était mettre tout ça en avant, mettre vraiment ça à l'honneur.
Tu m'avais dit, tout ce qu'on fait dans ce métier, c'est par passion.
Exactement. Donc, ça va être la cuisine, je sais pas. On va saisir dans une poêle bien chaude avec du beurre. Ce qui se passe là, ça provoque une émotion. On attend un résultat, donc une belle coloration avec une belle croûte ou une découpe. Avoir un couteau qui coupe bien et juste le passer dans un légume ou autre chose, avoir un beau tranchant. Tout ça, c'est des choses qui provoquent des émotions. Donc, c'est assez simple si vous voulez. À partir du moment où on est passionné, c'est assez simple de prendre du plaisir à le faire.
Aujourd'hui, on peut dire que tu es heureux le matin quand tu te lèves pour aller travailler.
Oui. Un grand oui.
Tu me disais d'ailleurs que c'est tellement une passion que la cuisine, elle est présente dans ton quotidien, même pas forcément quand tu travailles au restaurant. De quelle manière elle est présente au quotidien, cette cuisine?
Bah, elle est présente constamment. Je regarde ce qui se passe à côté, je regarde ce qui se fait sur Internet, dans les livres, un peu partout. Donc ça fait partie de ma vie. Je prends plaisir aussi à le faire à la maison. Et un petit peu plus maintenant, on n'est plus 100% sur la cuisine. Maintenant, j'ai une autre vision qui est liée aussi à la restauration. Donc, j'ai regardé plein de choses, que ça soit le distributeur de savon, enfin tout ce qui habille un restaurant. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là maintenant qui me plaisent. Un restaurant, ça, c'est pas uniquement avoir une carte des vins et une bonne cuisine. Il y a l'accueil, il y a la tenue, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes. Et je me passionne de plus en plus aussi pour ça.
Est-ce qu'il y a d'autres restaurants dans le quartier qui t'ont particulièrement marqué? Parce que justement, tu te dis, ah, ça c'est super ce qu'ils ont fait, qui t'inspire.
Oui, il y a certains beaux restaurants qui m'inspirent, qui sont des belles institutions. Bistro 31, qui est là depuis plus de 10 ans, donc plus de 10 ans d'activité, c'est admirable. Darocco, j'ai bien aimé, par exemple, où est-ce qu'ils ont greffé le poste à pizza, dans l'ancien poste écaillé. Et ça, je trouve ça super, parce qu'on met la cuisine un petit peu plus en avant, donc on évite de cacher la pizza. Et là, non, elle n'est même pas cachée en salle, elle est ouverte sur la rue. Et j'ai trouvé ça chouette, c'est exceptionnel.
C'est intéressant parce que ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la cuisine, c'est caché. Et toi, justement, tu avais envie d'aller au contact des clients. Ça rejoint un peu cette idée-là, finalement.
Exactement, bah là vous pouvez vous promener en famille le long de la Rocco et vous voyez les cuisiniers en train de travailler sans même avoir à y manger, vous portez les enfants, vous leur montrez, enfin c'est super, il y a une superbe expérience.
Je voulais aussi qu'on parle de tes projets. Pour moi, c'est important qu'on en parle parce qu'on est vraiment dans la thématique du podcast. Tu as pour projet de déménager, mais pas dans n'importe quel quartier.
Exactement, pas dans n'importe quel quartier. Je me plais énormément ici. Il y a beaucoup de commerces de bouche, donc pour un cuisinier c'est chouette. Des bons commerces de bouche, avec des bons produits bruts. On circule bien, on est à proximité de beaucoup de choses. Il y a peu de bouchons, c'est calme, pas beaucoup de klaxons.
Et je voulais dire que c'était quand même très étonnant parce que là, donc, tu envisages d'emménager ici alors qu'au début, c'était pas question. On le rappelle quand même.
Ah bah oui, c'est exactement ça. J'ai revu toutes mes ambitions. C'est surprenant et c'est encore plus surprenant quand j'en parle à ma copine, quand j'en parle à mes amis. Mais ouais, c'est un quartier où il suffit de le découvrir un petit peu, il fait très bon y vivre.
C'est intéressant, qu'est-ce qu'ils te disent justement quand tu leur dis tout ce que tu penses du village d'Auteuil, qu'est-ce qu'ils te disent tes amis?
Ben, j'ai beaucoup d'arguments, donc à découvrir, et ils se ferment pas à tout ça, et à découvrir.
En tout cas, ils sont sceptiques comme toi, tu pouvais l'être au début là.
Exactement, mais il faut quand même que ça reste un petit peu secret, sinon ça deviendra comme le 11 et ça perdra de son charme.
Exactement. Je pense qu'on peut dire maintenant que tu aimes beaucoup ce quartier. Est-ce que tu envisages d'ouvrir d'autres restaurants?
Oui, c'est dans le 16e également, pour avoir une proximité, pour les gérer. C'est quand même relativement plus simple.
C'en est au stade de projet pour le moment.
Projet, voilà, on attend une belle opportunité.
Donc on va dire affaire à suivre. Et en attendant d'en savoir plus, on peut venir te voir au Coltineur, le restaurant dans le 16e dont on a parlé. Et dans tes deux autres restaurants du 11e, Révolution et Le Chat Ivre, vous retrouverez toutes les coordonnées dans les notes du podcast. Merci à toi Gabin de m'avoir fait confiance.
C'était un plaisir, merci à toi Laura.
Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner au compte Facebook, Twitter et Instagram de Parole d'Auteuil pour être tenu au courant de l'actualité du podcast. Je vous dis à très bientôt.